Chapitre 16. C'est un tour affreux. « Monsieur, s'écrie une femme qui se présente dans le plus grand trouble, monsieur, daignez m'entendre et me permettre de reconquérir votre estime que ma funeste étourderie m'a fait perdre sans doute. » C'est madame de Linval qui s'exprime ainsi. Mon père l'a fait asseoir. Il voudrait pouvoir m'éloigner, mais la rapidité des discours de madame de Linval lui en interdit la faculté. « Monsieur, poursuit cette femme, j'ai mille, oh, mais un million d'excuses à vous demander. Je vois que je me suis abusée à un point. Vous n'êtes pas dormant, je le vois, je le sais. Je viens de m'en convaincre et, franchement, je vous ai pris pour lui. Votre air, vos traits, des avis secrets, tout m'avait plongé dans une erreur qui m'a fait commettre des imprudences coupables. » J'ai même, convenez-en, franchi à vos yeux les bornes de cette décence, de cette retenue qui font l'apanage le plus aimable de mon sexe. Dans la certitude que vous m'aimiez et que vous ne veniez sous un nom supposé que pour m'éprouver, pour juger de ma conduite, je vous ai fait parvenir mon portrait, je vous ai fait même des avances qui m'ont bien compromise. Pardon, monsieur, mille pardons. Mais si vous daignez fermer les yeux sur cette extravagance, m'en promettre un secret inviolable, j'ose exiger de vous que vous me donniez le temps de réparer mes torts, de regagner votre estime. Vous me devez cette complaisance et mes torts me donnent le droit de l'exiger. De grâce, monsieur, veuillez me donner encore 2 ou 3 jours de votre temps. Restez avec moi. Loin de toute société, de toute dissipation, je veux m'attacher à vous prouver que ma raison et mon esprit sont plus solides que je ne vous ai donné lieu de le penser. Plus de dormons, plus d'erreurs. C'est un ami que je veux en Monsieur Saint-Brice. Et il n'est pas assez inhumain pour refuser d'entendre la justification d'une femme coupable. » Mon père, dont le cœur était franc et confiant, crut voir de la franchise dans cet amendement de madame de Linval. Il s'efforça de lui prouver que le terme de coupable dont elle se servait était trop fort, qu'il n'y avait eu dans tout cela qu'une erreur bien légère. « Eh, monsieur, répliqua la rusée, sans cette erreur qui m'aveuglait, vous aurais-je retenu avec tant d'insistance le premier jour que vous vous présentâtes chez moi? Aurais-je employé depuis 1000 moyens pour vous garder? Vous aurais-je adressé des semi-confidences, insignifiantes pour vous, mais cependant intelligibles pour moi? Enfin, malgré toute l'estime que vous inspirez et que vous méritez, vous aurais-je traité si vite, en amant attendu et favorisé? Vous voyez que s'il y a de la légèreté de ma part, il y a aussi dans tout cela un jeu du hasard bien singulier et qui vous étonnera le premier quand je vous raconterai ce qui a donné lieu à cette méprise. » « Monsieur, vous m'avez dit plusieurs fois qu'aucune affaire pressante n'exigeait, ne réglait vos voyages. Accordez-moi la grâce que je vous demande. 2 jours encore, 2 jours seulement. Et si ce n'est pour moi ni pour vous, que ce soit pour cette charmante enfant qui nous est si nécessaire ici, dont les grâces, les talents et l'aimable caractère font le charme de nos réunions. Obtiendrai-je de vous cette faveur ?» Mon père, naturellement peu ferme en ses projets, balance un moment à répondre. Ses yeux semblent me consulter, mais les miens se baissent pour ne pas y laisser lire le désir que j'éprouve de prolonger mon séjour dans un lieu dangereux peut-être pour l'innocence, mais où l'amour voudrait toujours me fixer. Je ne réponds rien, et mon bon père, prenant mon silence pour un aveu, touché d'ailleurs du ton honnête et pénétrant de madame de Linval, qui lui demande l'oubli de ses extravagances, mon père consent à prolonger son séjour, et voilà, pour la seconde fois, nos malles remises à leur place, en stagnation. Je dois te faire remarquer, Jeannette, que, moi qui observais attentivement madame de Linval, sa joie secrète et maligne ne m'échappa point, quand mon père lui promit de souscrire à ses vœux. Elle se pinça les lèvres, et changea même de couleur lorsqu'elle remarqua l'attention que je mettais à suivre ses moindres mouvements. Mais en habile politique, elle se remit, fit 1000 remerciements à mon père et me mangea de caresses, car c'est le mot dont il faut se servir avec une femme aussi fausse. Elle se retira donc et nous restâmes. « À présent, Jeannette, je dois te mettre au fait du caractère, des intrigues et des projets de cette femme vile et méprisable. » et tu vas voir dans quel piège l'imprévoyance de mon père avait conduit l'innocence de sa malheureuse fille. Écoute-moi avec attention, tout ce que je vais te raconter, je ne l'ai su, pour mon malheur, que bien longtemps après. » Madame de Linval était une de ces femmes de moyenne vertu qui, veuve de bonheur, se jette dans la coquetterie et dans tous les travers possibles pour briller. Madame de Linval, après avoir mené à Paris une vie assez dépravée, avait eu le bon esprit d'amasser quelques rentes, et elle vivait depuis 3 ans dans une maison de campagne, très vaste et très belle, qu'elle avait achetée au village d'Orneval, près d'Abbeville. Là, et pour ses menus plaisirs sans doute, elle recevait une cour infinie de jeunes libertins, de vieux escrocs et de femmes de son genre. Duvilliers était l'amant du jour, et Lorneville, ainsi que les autres, attendaient leur tour, qu'ils savaient ne devoir pas être longs. Cependant, une madame Dumérel, dont elle avait enlevé l'amant, jalouse et furieuse à l'excès contre madame de Linval, imagina, pour se venger d'elle, un moyen assez plaisant, mais, hélas, dont je devais être la triste victime. « Tu sais, Jeannette, qu'à Paris, les sociétés sont composées de toutes sortes de gens. Cette madame Dumérel, qui faisait la prude et la femme honnête, allait dans une maison des amis de mon père. » Là, elle entendit que M. d'Héranville va partir avec sa fille pour sa terre près Abbeville et qu'il ira rendre ses devoirs à Mme Durocher, son ancienne amie, qui demeure au village d'Orneval. Mme Dumérel sait que cette dame Durocher est morte, que c'est son ennemie, Mme de Linval, qui a acheté sa maison. Et là-dessus, elle dresse ses batteries pour jouer un tour à sa rivale, lui enlever ses amants et la mystifier. Mais cette méchante femme ne pense pas qu'elle compromette un père de famille respectable et sa fille vertueuse, ou, si elle y pense, elle s'en moque. Tout lui est indifférent pourvu qu'elle se venge. Il n'était bruit à Paris que de la fortune immense de Dormont le financier et de ses regrets d'avoir perdu son épouse. Dormont passait néanmoins pour un épicurien, ami du plaisir et des femmes. Madame de Linval ne l'avait jamais vu et ne le connaissait que de réputation. La Dumérel écrit à celle-ci, avec le style de l'amitié, qu'elle est bien heureuse que, dans le dernier voyage qu'elle a fait à Paris, Dormont l'a vue au spectacle, que Dormont est devenu amoureux fou de ses charmes et qu'il ne parle rien moins que de l'épouser, etc., etc. Cette nouvelle tourne la tête à Madame de Linval. Elle remercie, par écrit, sa fausse amie de l'intérêt qu'elle lui témoigne en lui apprenant tout cela et la prie de lui marquer ce qu'il faut qu'elle fasse pour profiter de cette fortune. La Dumérel lui réécrit ces mots qui font la base de toute sa conduite avec mon père et moi. « Ma chère amie, en vérité, quand je pense au service que je te rends, je suis convaincue qu'on n'en croira jamais notre sexe capable. Moi, qui aurai tant de motifs pour t'en vouloir, c'est moi qui m'intéresse à ta fortune, aux dépens même de la mienne. Mais n'importe, il faut rendre le bien pour le mal, et d'ailleurs, je n'ai pas tant de charme que toi pour fixer le cœur de M. Dormont, qui me voit comme son ami et toi comme une amante, une épouse future. Cependant, mon ami, ce financier est difficile, scrupuleux et bizarre. Imagine-toi, ma chère, qu'avant de se déclarer, de t'offrir sa main, il a formé le projet le plus fou, le plus extravagant. Si je ne t'en prévenais pas, tu pourrais en être la dupe. Il faut donc, pour ton bien, que je te le dévoile, et j'espère qu'un jour, ta fortune et ton bonheur seront les doux fruits de mes soins. Voici le fait. Dormont doit se présenter chez toi, à Dorneval, sous prétexte de demander une dame du Rocher, à qui appartenait avant toi ta maison. Il prendra un nom supposé, et si tu le retiens, s'il parvient, selon ton désir, à passer quelques jours chez toi, tu le verras tes pieds, t'éprouver, toujours sous un nom supposé, et il ne s'ouvrira à toi que s'il te juge digne de sa main. Prends bien garde à le ménager, à ne point surtout lui faire entendre que tu es au fait de la ruse dont il se sert, car alors il deviendrait furieux et nul espoir ne te resterait. Je te préviens en outre qu'il sera accompagné d'une jeune personne de 18 ans environ, brune, jolie, remplie de talent, qu'il fait passer pour sa fille, mais au fond, on sait ce qu'il en est. Tu penses bien qu'il se gardera de dire à ce tendron le motif de sa visite chez toi. Ainsi, sa jolie maîtresse ne saura rien. Ne fais rien paraître, ma chère bonne, et comme tu sais qu'il aime le plaisir, réunis chez toi des fêtes, des bals, bonne société en un mot. Mais sans inconséquence, tu m'entends ? Adieu, ma toute belle, arrange-toi là-dessus. Dormons, homme de 50 à 52 ans, brun, bien fait, sombre, taciturne, sa fille, si tu veux, 18 ans, jolie, mais gauche et pincée. Et tout cela demandera, sous un faux nom, la Durocher, dont ils feindront d'ignorer la mort. Si tu te tires bien de cette épreuve, ta fortune est faite, entends-tu bien ? Adieu encore une fois, ma belle et bonne. Je t'aime à la folie. Pulchéry, phare du Mérel. Ici, Jeannette ne put s'empêcher d'interrompre Cécile pour lui exprimer son indignation et son effroi. « Oh Dieu, ma chère maîtresse !» s'écria-t-elle. « Quel complot ! Vous passiez là pour la maîtresse d'un financier ? Ah, tout mon sang se glace ! Quel sera le résultat de cet odieux mensonge ?»« Le malheur le plus grand, ma chère Jeannette ! Écoute-moi, nous y touchons. »